Et oui, le 20 août 1974, cet homme admirable, le jésuite qui avait été nommé cardinal quelques années plus tôt, le maître de la pensée, ce grand serviteur de ce qu'on pourrait appeler la mission chrétienne au XXe siècle, est disparu au milieu de presque un tremblement de terre, je dirais, c'est tout, une turbulence épouvantable. Et on se demande ce qui a le plus contribué à ce discrédit qu'on l'a affublé. C'est des circonstances insolites de son décès. Il est mort chez une prostituée. Mort chez une prostituée, cet homme admirable. Comment se fait-il? Évidemment qu'il y a eu des ressentiments de la part de certains chrétiens, même de beaucoup de chrétiens. Il y a eu surtout une immense complaisance de la part des journaux, comme évidemment Harakiri, mais aussi de quantité d'autres. Mais il était défendu, avec raison, par des fidèles plus nombreux qu'on ne croit, qui le connaissaient et qui n'ont pas osé parler. Moi, j'ai l'intention de parler et de dire la vérité. Quelque temps après sa mort, d'ailleurs, est paru ce beau livre que j'ai entre les mains, Jean Danilou, 1905-1974, chez Axe et aux éditions du Cerf. Un très, très beau livre paru l'année suivante, en 1975. Et il y a là des textes superbes de Michel Salles, d'Yves Raguin, d'Henri René Maroux, de Xavier Tillette, etc., Henri de Lubac, le cardinal, Henri de Lubac, un jésuite aussi, Maurice de Candiac, et même Jean-Marie Lustiger, oui, à l'époque, oui, Jean-Marie Lustiger, qui était déjà connu, et puis, enfin, c'est... Ce sont des témoignages admirables, même d'André Chouraki, Olivier Clément, Oscar Kuhlmann, Olivier Lacombe, François Wang, que j'ai déjà reçu chez moi, ce prêtre chinois converti admirable, qui est mort malheureusement, et Pierre-Emmanuel aussi que j'ai bien connu, qui est mort. Et alors, quand on pense que le cardinal Danilou a reçu des attaques épouvantables de tous côtés, heureusement, sont parus, 20 ans après son décès, des carnets spirituels, qui ont été enfin publiés. Ça a été publié aux éditions du Cerf en 93, il y a déjà près de 3 ans. Et ça fait du bien de s'interroger aussi à partir de ces carnets spirituels. Mais qu'est-ce qu'il y avait en lui de si mystérieux qui le prédisposait ou le préparait, d'une façon, pour ainsi dire, mystique, à des malentendus pitoyables au sujet de sa mort. Cet homme, ce jésuite, qui a accompli une redécouverte fantastique des pères de l'Église, qui a approfondi tout le problème de l'histoire du salut de l'humanité, qu'il suffise de rappeler la revue Dieu vivant à laquelle il a participé profondément, lui qui a fondé aussi la grande collection des sources chrétiennes, qui a établi à Paris le cercle Saint-Jean-Baptiste où il a adressé la parole si souvent et qui a bouleversé les âmes. Il est clair aussi que ce cardinal associé à son aîné, le cardinal de Lubac, et à Henri René Maroux aussi que nous avions, Marcel Brisebois et moi interviewé aussi à rencontre, eh bien, il a marqué une magnifique renaissance de l'esprit dans l'Église du XXe siècle. Son intelligence, la foi est telle, il faut lire ses ouvrages, hein, c'est passionnant, je me suis remis là-dedans durant plusieurs jours. Là. C'est tellement passionnant, et c'est souvent si clair et si merveilleux, si enthousiasmant. Je vous lirai quelques passages et vous seriez surpris. Il suffit de lire dans « Dieu et nous ». La création tout entière n'est qu'un léger murmure, en comparaison de ce qu'est le Seigneur lui-même. Et pourtant, déjà, à peine en pouvons-nous supporter la gloire. La beauté du monde est parfois si intense qu'elle nous fait mal, qu'il semble qu'elle nous fasse défaillir. Mais si c'était la beauté même de Dieu qui se dévoilait à nous en elle-même, et non plus à travers des ombres et des reflets, ce serait un tonnerre qui briserait nos oreilles. Rilke l'avait bien senti quand il écrivait à propos des anges. Si l'un d'eux soudain me prenait sur son cœur, je succomberais, mort de son existence trop forte, car le beau n'est rien que le premier degré du terrible, le premier degré du terrible. Il a une façon d'écrire qui est tellement belle, tellement belle. Mais il reste toujours le scandale de sa mort dont il a été victime. Quand on lit les articles d'André Mandouze, ou même de Jean-Marie Domenac, ou des articles parus dans le Nouvel Observateur, etc., mon Dieu, on se dit comment ont-ils pu écrire de telles choses. Pour eux, il est évident que le célibat des prêtres était quelque chose de trop difficile, et que ça pouvait, cette mort tragique chez une prostituée, obliger l'Église à voir dans cet événement un signe des temps, comme on disait dans le Nouvel Observateur. Il fallait en tirer les conséquences, disait-on. Et le dossier d'Agnelloux serait ainsi mauvais à plaider. Mauvais à plaider innocent, évidemment. Alors que coupable, puis décrivant, c'est-à-dire dérivant dans le sens de l'histoire, bien, tout ce dossier bien concourrait à libérer les prêtres, dit-on, de l'hypocrisie du célibat. Mais voyons. On voudrait conclure que Jean d'Agnelloux était un important théologien, bon, d'accord, un spécialiste des pères de l'Église, un spécialiste de la Bible, mais pour le reste, un pauvre homme, qu'il n'eût pas fallu condamner à cette espèce d'ascèse au-dessus de ses moyens, ce célibat infâme. C'est un discours qu'on entend bien souvent aujourd'hui, c'est bien contemporain. Si je faisais semblant de l'admettre, je trahirais ce que je sais. Car, quand on ose écrire que Jean d'Agnelloux a été lâchement et sans preuve calomnié, je trouve rassurant de le faire à la suite d'hommes comme le père de Lubac et d'Henri Marou, son ami, collaborateur des sources chrétiennes, du père Carré lui-même qui m'a remis ce beau discours qu'il a prononcé à l'Académie française pour la réception, pour sa propre réception, et ce discours qui parlait presque exclusivement du père d'Agnelloux auquel il succédait à l'Académie française. Il m'a remis ça, mon Dieu, bien longtemps, en 76, le père Carré, alors que j'avais déjeuné avec lui. Et alors, le père Dominique Carré faisait l'éloge du jésuite à l'Académie française. Et puis, quand on lit aussi les textes du père Lustiger, à l'époque, qui n'était pas encore évêque, qui l'avait connu quand il était aumônier du quartier latin, le père Lustiger. Quand je lis les textes de Pierre-Emmanuel, d'Olivier Clément, etc., je me rends compte que ces gens-là devaient savoir ce que je sais. Ce que je sais, je vais vous le dire. J'ai déjà déjeuné avec le frère du cardinal d'Agnelloux, Alain d'Agnelloux. Alain d'Agnelloux, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment un homme étonnant. Il m'avait laissé sa carte. Alain d'Agnelloux, directeur International Institute for Comparative Music Studies and Documentation. En somme, directeur de l'Institut international pour les études de la musique comparative et documentation aussi de la musique comparative. Son adresse était à Berlin, mais il avait aussi une adresse à Paris. C'est là que je suis allé le retrouver en fin de matinée. Pas longtemps après la mort de son frère, donc si je me suis mis, c'était en 75 ou 76. Je voulais l'interviewer à la télévision de Radio-Canada à Rencontre. Tous les deux sont les fils de Madeleine Danilou, cette admirable femme, dont l'un des plus beaux ouvrages, Quand vous prierez, paru chez Desclée de Brouwer, est admirable. Hein? Admirable, Madeleine Danilou, leur mère, qui a fondé en 1907, qui a dirigé jusqu'à sa mort en 1956, une œuvre d'enseignement secondaire, le Collège Sainte-Marie à Paris, a eu une influence catholique profonde, énorme, Madeleine Danilou. Et je pourrais vous lire des textes d'elle comme « Seigneur, donnez-moi de comprendre dans votre sainte passion la hauteur, la largeur, la profondeur de votre amour. Quelle mère admirable ils avaient !» Mais si Jean Danilou est entré chez les Jésuites un peu tard, à 24 ans, il est devenu cet homme admirable, Alain a quitté l'Église. Alain Danilou est devenu hindouiste, ou à tout le moins hindouisant. Et il avait publié ce livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis le début des années 60, « Érotisme divinisé », dans lequel on peut lire des choses comme « Les législateurs hindous établissent une différence fondamentale entre deux sortes de morale. La morale personnelle, tendant au perfectionnement de l'individu, et la morale sociale, ensemble de règles pratiques, ayant pour but la normalisation de la vie collective. Et il ajoute cette phrase, « La réalisation érotique est une nécessité inéluctable de l'équilibre humain. » Même, il développe tout ça, même dans ses déviations. Or, Alain Danilou était un homosexuel reconnu, qui ne s'en cache absolument pas. Quand il a écrit cet ouvrage étonnant, L'érotisme divinisé, c'est un immense bouquin illustré, en très gros caractères, publié chez Buchet-Châtel en 1962, donc, ça avait fait sensation dans le temps, et quand je suis arrivé chez lui à Paris, j'ai été reçu par un jeune homme fort beau qui m'a fait asseoir dans une salle d'attente où les tableaux étaient respectueux, étaient faits un peu à la façon de John Lyman ou de Tonancourt ou de certains peintres comme ça qui peignaient ici il y a déjà une quarantaine, cinquantaine d'années, donc avec beaucoup de discrétion, des nus, qui n'étaient pas choquants. Mais tous ces nus étaient des jeunes gens, des jeunes garçons. Il y en avait une dizaine. J'étais si désolé, si mal à l'aise, que j'avais hâte qu'il arrive, et en effet, quelques minutes plus tard, il est arrivé. Pour nous entraîner au restaurant, il était accompagné cette fois-là d'un autre garçon de 25 ans, un Allemand. Et nous sommes partis tous les quatre, c'était extrêmement gênant, dans un restaurant où finalement, il m'a avoué qu'il était comme ça, ça ne le gênait pas, mais il était poli, fort bien élevé, discret, tout en étant franc. Et à un moment donné, vers la fin du repas, la conversation est tombée sur la mort de son frère. Il a souri. Il m'a dit, « Permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Mon frère avait les mêmes tendances que moi, mais sa foi chrétienne profonde, qui lui défend totalement de satisfaire ses désirs, eh bien, il y a obéi en tout point. Sans cesse, il a été fidèle à sa foi. Ça, il dit, je dois reconnaître mon frère Jean que j'estimais beaucoup. Nous nous entendions fort bien. Eh bien, il a été admirable. Or, ça m'a rappelé que le cardinal Danilou m'avait confié, dans une entrevue que j'avais faite avec lui 2-3 ans plus tôt, et qu'il s'occupait des prostituées, et qu'il préférait ne pas en parler à la télévision de crainte qu'on s'imagine des choses. Il pouvait s'en occuper d'autant plus qu'elle ne lui l'attirait pas du tout, étant donné ses pulsions sexuelles et ce malaise dans lequel il pouvait se trouver. Ça lui permettait donc de faire un apostolat évangélique extraordinaire devant ces femmes, dont Jésus dit dans l'Évangile, « Les prostituées seront devant vous au paradis. » Et il s'est occupé en particulier d'une femme dont on connaît le nom. Et il est mort là. La veille, il s'était énormément fatigué. un pèlerinage à Saint-Yves-de-Tréguier, en Bretagne. Ça l'avait épuisé. Mais son devoir d'apostolat, il l'a rempli quand même ce 20 mai, et il en est mort. Ce que je vous dis n'a jamais été dit. Je le dis en tout respect pour Alain Danielou, et surtout pour un grand respect pour cet homme admirable, de taille moyenne, regard vif et mobile, qui m'avait impressionné. Il avait un visage heureux, Jean Danielou. Il avait une élocution précise, rapide. Il avait une voix un peu aiguë. Quand il l'avait interviewé, il habitait chez les petites sœurs des pauvres, à Paris. Très pauvrement, nous l'avions installé dans le jardin. Et la verdure du jardin et le noir de ses vêtements faisaient sortir terriblement ses chaussettes rouges de cardinal. Je lui avais dit, ça attire trop l'attention. Mon père, il faudrait les retirer, porter d'autres chaussettes, je m'en excuse. Alors, il avait trouvé ça bien sympathique, il est parti à courir, puis il dit, venez, venez avec moi. Et j'ai couru avec lui dans les corridors du monastère des petites sœurs des pauvres. Et nous sommes entrés dans sa chambre, qui était très pauvre, un grabat. Il s'est assis sur le grabat. Il a retiré ses chaussettes rouges pour en mettre des noires. Et c'est là qu'il m'avait confié qu'il s'occupait des prostituées et qu'il ne voulait pas en parler. Quel dommage que je n'ai pas eu l'occasion de parler de tout ça avant, mais je le rétablis, sa mémoire, aujourd'hui, 23 ans après son décès, en ayant eu la preuve. Je crois que il y avait chez lui une personnalité explosive. Il y avait un tempérament électrique qui était toujours prêt à discuter. Il court-circuitait ceux qui avaient des opinions contraires qu'il ne pouvait admettre. C'était pas un homme de demi-mesure, c'était un homme entier. Et quand il s'est donné au Christ, il était entier. On peut lire d'ailleurs dans l'admirable texte prononcé à l'Académie française par le père Ambroise Marie Carré, une courte biographie que je résume. Né le 14 mai 1905, Jean Danielou était en philosophie. Au moment où, dans la même école de Sainte-Croix de Neuilly, je commençais, dit le père Carré, la classe de quatrième. Puis, auréolé du prestige des grands, Jean Danielou m'apparaissait lointain, intimidant, mais l'un et l'autre, nous n'avions mis notre confiance en l'éducateur prestigieux dont le souvenir plus tard nous rapprocha, l'abbé Pierre Petit de Julleville, futur évêque de Dijon, puis cardinal archevêque de Rouen. Et c'est cet abbé Petit de Julleville qui a eu une influence très précise sur Jean Danielou. Le père Carré dit que son entrée dans la compagnie de Jésus, chez les Jésuites, donc, doit beaucoup au père Léonce de Grandmaison, familier des écoles Sainte-Marie et de l'association Saint-François-Xavier fondée par son admirable mère, Madame Madeleine Danielou. Mais il faut dire que ses relations avec l'abbé Petit de Julleville prédisposaient à un tel choix des Jésuites. En effet, le supérieur de notre collège admirait fort les Jésuites, leur discipline, leur sérieux, leur large ouverture sur le monde des lettres. Alors curieux de tout, lecteur infatigable, doué d'une mémoire insolente, donnant parfois l'impression de se livrer avec gourmandise au jeu de l'esprit, ayant le génie de capter pour lui mener plus loin les intuitions des autres, travailleur tenace, Jean Danielou fut en fait l'homme d'une seule idée et d'un seul vouloir. C'était un homme d'une grande volonté. Sa mort tragique ne peut être qu'une mort remplie de l'esprit de l'Évangile, et non pas de ce péché infâme, selon l'ordre chrétien, dont on l'affublait. Le père Carré dit que c'est pourquoi, sans doute, son entrée en 1929 au noviciat du Jésuite à Laval fut précédée de longues hésitations. Parce que c'était un homme entier, il ne voulait pas qu'il se trompe. Il savait que certains de ses désirs seraient comblés, il sortirait d'une adolescence et d'une jeunesse où, malgré un éveil social dû à Robert Garrick et à ses équipes, l'égoïsme avait tenu trop de place. Parce qu'il entrait 24 ans. Il recevrait la formation contemplative, d'une part, et spirituelle, dont il éprouvait impérieusement la nécessité. Il prolongerait aussi, dans d'autres branches du savoir, ses études universitaires. Et cependant, lui qui était diplômé d'études supérieures, agrégé de grammaire, fréquentant les milieux de pensée les plus divers, il entretenait des ambitions culturelles et littéraires. Et son père, qui était député ministre sous la Troisième République, le poussait vers une carrière politique pour laquelle il se sentait du goût. Quand il déclare dans ses mémoires posthumes que la prière occupa une place primordiale durant ses premières années chez les jésuites, on comprend que seul ce permanent recours à Dieu lui permit d'accepter la somme énorme de sacrifices, ce sont ses propres termes, qu'entraîna son option pour la vie religieuse. Alors c'est un homme qui s'est vraiment donné. Donné. On a parlé d'une conversion même. La conversion ouvrit à Jean Danilou la voie d'une ascèse qui veut libérer les âmes captives. Elle ne l'a pas brimé, et encore moins dénaturé. La spiritualité de Saint-Ignace lui a fourni comme une clé d'or pour tenter de résoudre ses conflits intérieurs. Conflit dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Et en lui faisant mettre ses pas dans les pas du Christ, elle lui a appris aussi que l'apôtre ne doit jamais reculer. « Avance, dit Jésus à Pierre, va vers le large. » Et telle était la vocation de Jean Danilou, qu'est-ce qu'il en a fait? On a dit de lui qu'il pouvait s'émerveiller sans limite. Il l'a reconnu sans peine. Il dit « Je suis un être émerveillé. » Sensible à la nature, aux êtres, aux génies. Alors, il faut le lire pour voir jusqu'à quel point c'était un être émerveillé. C'est superbe ce livre. C'était un trait frappant de son caractère d'ailleurs. Mais il y a des émerveillements durables qui donnent à une existence son originalité. Et grâce au père Henri de Lubac et au préfet des études, le père Victor Fontoymont, le jeune étudiant jésuite découvrit au Scolastica de Lyon les pères de l'Église. Il a été là aussi en même temps que Hans Urs von Balthasar. Alors, devenu professeur et homme de recherche, Jean Danilou consacra des travaux importants, non seulement Grégoire de Nice, le père de la théologie mystique au début de l'Église, un des plus grands génies chrétiens, mais aussi à Origène, à Philon d'Alexandrie, au judéo-christianisme, ainsi qu'à l'histoire des doctrines avant le concile de Nicée. C'est le professeur Marot, Henri-René Marot, qui déclare que le père Danilou fut considéré comme un membre à part entière de la communauté scientifique internationale. C'est pas n'importe qui, comme vous voyez. Mais cependant, dit le père Carré, ce prêtre, qui occupa avec tant d'éclat la chaire de patristique à l'Institut catholique de Paris, l'Institut catholique de Paris, c'est comme l'Université catholique de Paris, si vous voulez, ne pouvait se contenter de faire œuvre d'érudition. Chaque grand thème dont il poursuivait l'étude inspirait en même temps sa prédication sous les formes multiples qu'elle prenait. Enseignement et apostolat se stimulaient l'un l'autre dans une continuité sans faille. Alors, je vais développer un thème très important chez lui. Au début de la deuxième épître, de Saint-Pierre. Le Saint-Pierre emploie une expression audacieuse. Il nous voit dans le Christ participant de la nature divine. Ça nous gêne toujours cette histoire. Or, pour les pères grecs, les pères de l'Église grecque, là-haut, dans les 7-8 premiers siècles, la divinisation est donc proposée à tout homme qui accueille l'incarnation du Verbe. Pour eux, cette incarnation change le cours de l'histoire. Puis ces hommes-là, les pères grecs, répètent à l'envi, il s'est fait ce que nous sommes afin que nous devenions ce qu'il est. Toujours délicat, hein? C'est difficile à comprendre ça. Alors certes, Dieu, c'est le tout autre. Hein? Dieu est le tout autre. Je vous ai lu un petit texte sur Dieu tout à l'heure qui nous laisse bien comprendre combien Jean Danilou comprenait ça. Donc si Dieu est le tout autre, Il se donne quand même chaque jour davantage à qui se laisse transformer par lui. Et la vie mystique n'est pas autre chose. Non, la vie mystique, c'est pas autre chose que cette communion progressive au mystère de Dieu. Elle est à la portée de n'importe quel chrétien. Oui, chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous pouvez laisser votre âme pénétrer par Dieu. C'est du moment que l'on sait adorer, demeurer disponible. En même temps, elle n'a rien. Elle n'a rien, cette vie mystique, qui puisse séparer d'autrui. Le mystique entraîne tout un peuple dans son sillage. Puis Grégoire de Nice, celui sur lequel il s'établit surtout sa pensée, le père Danilou, cet évêque, ne monte pas vers Dieu dans une ascension solitaire. Oh non, en se sanctifiant, il sanctifie directement les autres. Et imprégné de cette doctrine si réaliste, mais lorsque Jean Danilou parlait du Dieu vivant, ou bien du Christ qui nous l'a fait connaître, et par qui nous sommes introduits dans l'intimité du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint, on comprend que les dogmes cessaient d'être des définitions abstraites. C'était du feu, affirmait ses auditeurs, une lumière qui permettait de déchiffrer tout notre présent et tout notre avenir. Quel immense personnage que ce Jean Danilou, dont je vais continuer à vous parler tout à l'heure. Vous savez, j'ai déjà vu le cardinal Danilou sur les Champs-Élysées. Je passais en taxi. Et lui, il était sur le trottoir, faisait la queue, attendait un autobus de Paris. Tout simplement. J'aurais voulu dire au taxi d'arrêter, mais était trop tard. C'est un homme simple. Vous savez que la veille de sa mort, je vous ai dit qu'il était allé au pèlerinage de Saint-Yves, à Tréguier, où il s'était beaucoup fatigué. Il déclarait, ce jour-là, la veille de sa mort, « Ceux qui aujourd'hui sont aux plus hautes responsabilités dans les charges de la société nationale ou internationale commencent à le sentir. Ce n'est pas simplement avec de la technique. Ce n'est pas simplement avec des aménagements d'ordre matériel. » Avec des organisations aussi perfectionnées soient-elles, qu'on fait une humanité. On peut, avec cela, faire une barbarie. Cardinal Danilou, c'était vraiment un humaniste militant, humaniste chrétien, catholique. On ne peut pas dissocier son action apostolique du combat qu'il a mis en faveur de la culture. Il avait de larges connaissances historiques. Il circulait à l'aise dans la littérature française, qu'il avait assimilée de façon phénoménale. Il estimait, comme Platon, que le beau est la forme sensible du vrai. Il a considéré que l'une de ses tâches au service de l'homme était de maintenir et de trouver le contact avec le monde, où se joue l'avenir de l'esprit. Alors il a surmonté les défiances qui paralysaient encore les catholiques de France. Tout jeune jésuite, il a soutenu en Sorbonne des thèses pour le doctorat ès lettres. L'université exerçait sur lui une sorte de fascination, puis il est devenu doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique. Il a multiplié avec elle toutes les formes de collaboration. Et dans la ligne qui a toujours été la sienne, il percevait les dangers mortels que court aujourd'hui cette culture traditionnelle, dont il mesurait tout le prix. Certains de ses livres, Test, c'est une série de petits articles qu'il a publiés sur des événements d'aujourd'hui, des problèmes qu'on se pose, des questions qu'on se pose, sont extrêmement intéressantes, comme la transcendance de Dieu, quel beau texte ça, la liberté de la recherche théologique, le célibat sacerdotal, l'esprit évangélique, puis les travestissements de l'esprit évangélique, ou bien, il parlait de la révolte des jeunes, mon Dieu, ce qu'il faut croire aujourd'hui, Dieu et le monde moderne, la défense du sacré, etc. Alors dans ces textes-là, test, puis nouveau test, ainsi que la crise actuelle de l'intelligence, ça c'est un petit livre merveilleux, un bijou, c'est pas long, hein. La culture trahie par les siens aussi, et toutes sortes de mémoires, là. Il exprime ses vives inquiétudes. Hein. Il dit d'ailleurs, face au développement inouï des sciences, la culture littéraire, philosophique, se révèle complètement déficiente. La science, les sciences humaines, se donnent l'illusion de récupérer la dimension de l'homme intérieur, mais elles n'atteignent que des conditionnements de l'homme et non l'homme lui-même. Où sont les métaphysiciens, les moralistes, les écrivains, les Dantes, les Shakespeare, les Balzac, qui donnent à une époque une image de l'homme où l'homme se reconnaît? Alors il se trompait pas, hein? Il se trompait pas. Il avait un souci de la personne humaine qui lui paraissait bafouée, mutilée, quand on refusait de voir en elle une créature de Dieu. Pour la sauver, il faisait appel aux religions, dans leur diversité. Et cette diversité, au lieu de le gêner, lui inspirait cette formule magnifique, disait, dans un esprit profondément écuménique, « Avant de parler par Moïse et par Jésus-Christ, Dieu a parlé une première fois à tous les hommes à travers le cosmos et la conscience intérieure. » Et à cause de cette parole d'homme, on peut dire que Jean Danilou était un être profondément religieux. Tout homme est un être religieux, et lui l'était, d'une façon admirable. Le Christ nous a révélé en plénitude que la dépendance de l'homme à l'égard d'un Dieu transcendant est une dépendance d'amour, et ça, ça l'habitait. Jean Danilou, de citer le père Teilhard de Chardin, qu'il aimait beaucoup, « Plus l'homme deviendra homme, plus il éprouvera le besoin d'adorer. » Car l'homme, c'est quoi? C'est le lien entre tout cet univers immense et Dieu, car nous seuls pouvons adorer Dieu et restituer toute cette création dans le cœur de Dieu, comme un immense hommage qu'on rend à celui qui a tout fait par amour et qui nous aime d'un amour tel que notre cœur ne peut pas trop le comprendre, car nous en mourrions, le cœur déchiré. Dans le même mouvement, Jean Danilou, qui se définissait comme l'homme du sacré, s'est insurgé contre tout ce qui, dans le désir de purifier la foi, l'a troublé en fait. Même si cette foi peut sembler naïve, voire primitive dans ses expressions, et on voit bien comment il aimait les gens simples et les prostituées dont il s'est occupé. Je prends la défense du peuple chrétien, c'est-à-dire de la masse des hommes, des femmes, des familles, qui constituent ce grand peuple de Dieu formé de saints, de pécheurs, de croyants et d'incrédules. Nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de lui pour nous attacher à un christianisme de chapelle, de petites communautés qui groupent de petites élites. Que c'est beau. Jean Danilou avait voulu devenir jésuite essentiellement pour être religieux. Religieux. Et certes, il avait évolué du fait des responsabilités sacerdotales qu'un jésuite, et qu'il devait assumer progressivement. Vous savez que les religieux, les prêtres, sont par excellence les vrais, ceux qui se convertissent le plus profondément, au contact constant des conseils évangéliques, au contact constant du sacrifice eucharistique et des sacrements, ils s'aperçoivent combien ils ont des liens extraordinaires entre Dieu et tous les hommes. Et leur conversion, quand ils sont au cœur de leur foi, ne peut être que bouleversante, merveilleuse, et c'est ce qui lui est arrivé, hein? Toujours cette conversion constante. Le rôle de pasteur, il ne se doutait pas qu'il serait appelé à le tenir un jour au service des humbles, cardinal Danilou, au service des gens peu cultivés, faibles, incapables de rester au sein d'une église qui condamnerait leurs coutumes, leurs pratiques. C'est dur que d'aller évangéliser, s'occuper de ceux qui sont comme en dehors alors qu'ils voudraient être en dedans. Évidemment, cardinal Danilou ne pouvait étudier plus les cultures sans dialoguer avec les religions. Il l'a fait avec l'hindouisme, évidemment, son frère étant hindouiste, je vous en ai parlé tout à l'heure, cet extraordinaire Alain Danielou. Il l'a fait avec l'hindouisme, avec les religions africaines aussi. Puis entre chrétiens et musulmans, les échanges étaient à ses yeux indispensables. Il suffit de se souvenir de ses contacts exceptionnels avec les juifs, avec le judaïsme. L'expérience normale de l'homme étant pour lui l'expérience religieuse, bien il s'est efforcé de saisir aussi, objectivement possible, la réalité de cette expérience religieuse qui habite le cœur de l'homme. Chaque fois qu'il la rencontrait, on ne cherchait pas nécessairement à convertir, même si c'était jésuite. C'était un disciple encore des pères de l'Église. Il essayait de comprendre de quelle manière, par quel symbole et par quel rite se manifestait le sens du mystère puis le goût de Dieu chez les autres. Une grande modestie aussi qui se liait chez lui à la curiosité, cette curiosité fraternelle. Il estimait que le dialogue sur le contenu de la foi ne pouvait avancer que lentement, et il préconisait plutôt la coopération des religions dans des domaines où s'affirme ce que les religions ont en commun. Il se réjouissait d'ailleurs de la grande convergence que toutes sortes de conversations et de colloques faisaient apparaître pour défendre, par exemple, la liberté religieuse contre l'intolérance, pour bannir l'utilisation des religions dans les guerres, pour enterrer l'arme déjà si sanglante du fanatisme. Car on utilise les religions dans les guerres, mais ce n'est pas les religions nécessairement qui font les guerres. En Irlande, ce ne sont pas des protestants et des catholiques, comme on le dit si souvent. Ce sont des Irlandais de naissance et de tradition séculaire qui ont dans leur sang cette appartenance à cette île qui veut l'union de l'Ulster dans le nord avec tout le reste de l'île, avec tous leurs frères qui sont au sud, considérant que tout ce territoire devrait être formé qu'un seul pays. Mais les autres, c'est un point de vue qui se justifie peut-être, qui sont là depuis quelques siècles, viennent surtout d'Écosse, ce sont des protestants, sont venus après le schisme. Et eux sont rattachés, culturellement davantage, à l'Angleterre, à l'Écosse. Ils ne veulent pas se rallier au Sud. Ce ne sont pas parce qu'ils sont protestants. C'est d'abord et essentiellement parce qu'ils viennent de là. Et ainsi de suite. Combien de fois allons-nous dire que les indépendantistes québécois le sont parce qu'ils sont catholiques et les autres sont fédéralistes en dehors parce qu'ils sont protestants? Voyons. Ça n'a rien à voir. C'est un hasard des événements. Le cardinal Danielou a écrit « L'essentiel de ma vie n'est pas dans le combat mais dans l'expérience ». Et dans l'échange spirituel. Expérience et échange spirituel. C'est ça l'essentiel de sa vie. Et sans jamais tenir compte de la fatigue, il était prêt à confesser, à guider n'importe qui sur la voie de la réconciliation. N'importe qui. Et ça, c'est le père Carré qui l'a affirmé en pleine Académie française, sans doute en songeant à cette prostituée chez laquelle il est mort. N'importe qui. Car il n'a jamais fait de discrimination. D'autant qu'il était moins sensible au mal qu'à la misère morale. Pour lui, la misère morale, c'était épouvantable. Ça brisait son cœur. Et comme il avait conscience d'avoir été un homme toujours comblé, je vous rappelle sa mère Madeleine Danielou, qui était une très grande catholique. Un jour, je vous ferai une émission sur Madeleine Danielou, qui est si merveilleuse. Eh bien, lorsque les honneurs s'accumulèrent, n'est-ce pas, sur lui, il est devenu membre de l'Académie française, etc., il est allé encore davantage vers les plus démunis. N'oubliez pas les conseils que Saint-Ignace donne, de ne pas cacher à ses intimes, qu'il voyait là, au regard de toute cette gloire comme une indispensable compensation. Car c'est très beau d'être glorifié, mais si on se distancie des pauvres parce qu'on est glorifié, si on porte de beaux costumes de 1 500 $ parce qu'on est glorifié et qu'on ne sait pas aller dans les quartiers les plus pauvres, manger avec les pauvres, parler avec eux, discuter, rire avec eux, leur apporter des cadeaux. Ah, mon Dieu, aider les enfants à faire leurs devoirs. Si on ne fait pas ça, qui sommes-nous? On n'a pas fait ça, évidemment, de façon systématique. On se tromperait en considérant comme une sorte d'aumônier qui aurait été attiré par les publicains et les prostituées. Non, simplement, on ne pouvait entendre crier au secours sans répondre à l'appel. Il fallait qu'il y ait. Et quand il se demandait s'il avait raison, ben il répondait, « Je suis un homme spontané, moi, je suis ce que je suis, je fais ce que j'ai à faire. » Mais le reste m'est tout à fait égal, le reste lui était tout à fait égal. Le cardinal Jean Denis lui songeait, « Ô Christ, dont la disponibilité absolue triomphait, de l'incroyable résistance de toutes les barrières sociales. Le Christ les a franchis, les barrières sociales. On pense à Marie-Madeleine, qui était sa grande amie. Ben oui, comme le cardinal Danilo. La sainteté lui apparaissait comme étant la liberté souveraine, dit le père Carré. Oui, la sainteté pour le cardinal Danilo, c'était quoi? La liberté souveraine. Liberté. Totale liberté. D'ailleurs, dans Figaro littéraire, le cardinal Danilo disait plus encore, les saints se moquent de ce qu'on pense d'eux. Ce qui les intéresse est ce que pense Dieu. Cela les fait agir d'une manière qui est souvent déconcertante, ajoute le cardinal Danilo. Ils passent parfois pour fous, mais c'est qu'ils obéissent à une autre logique. Les autres donnent ce qu'ils ont, eux donnent ce qu'ils n'ont pas. Dans le Figaro littéraire. Et dès 1945, au terme d'une retraite personnelle, il écrivait « Accepté, désiré même, par amour pour Jésus, d'être déshonoré même aux yeux de ceux que j'aime, s'il le permet. » Il a écrit ça en 1945, il est mort en 1974. Extraordinaire, hein? On peut dire que de ce consentement, Jésus a fait une des béatitudes. Et on dirait que Jésus l'a reçu dans le déshonneur. Et les remous suscités par les conditions tout à fait déroutantes où est mort le cardinal, ce cardinal de la Sainte Église romaine, ça dépasse évidemment le cadre d'une situation particulière et ça nous concerne tous, à commencer par des secteurs de l'opinion publique qui ignorent eux, les enseignements fondamentaux de l'Évangile. Ça leur dit rien s'occuper des pauvres en s'occupant vraiment des pauvres, en y étant présent, pas simplement en organisant des systèmes, des organisations, en faisant des pressions auprès du gouvernement, ce qui est tout à fait nécessaire. Or, la mort, c'est toujours une pauvreté suprême. Et pour cette mort du cardinal Danilo, où on a parlé, dit le père Carré, de mort scandaleuse, tandis qu'une compassion fraternelle appelait mort humiliée cette fin, où la signification de toute une vie semblait défigurée. Et compte tenu du caractère du cardinal, et aussi vu le combat spirituel qu'il menait au centre des misères, je dirais plutôt mort provocante, car elle nous pose une question, car elle nous interroge avec gravité. Et le père Carré continue en disant, on répète sur tous les tons, que l'Église d'aujourd'hui se trouve, comme jamais, invitée au courage. Est-ce que la miséricorde ne ferait point partie de ce courage, même si ce courage risque d'entraîner la malveillance ou l'incompréhension? Jésus est-il venu pour les pécheurs ou pour les justes? Tous les êtres humains étant de quelque manière mis en croix, ne doit-on pas se tourner avec prédilection vers le larron qui ne croyait pas au Christ? Depuis quand un disciple de Jésus, sous prétexte qu'il est devenu notable dans l'Église et dans la société, est-il dispensé par l'Évangile de se faire serviteur? Ah, si Jean Denis Loup était mort à Tréguier la veille, n'est-ce pas, le pèlerinage de Saint-Yves. Mais non, surmontant un malaise pendant ce pardon de Saint-Yves et dominant sa fatigue le lendemain jour de sa mort, alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe, Jean Danielou a pratiqué jusqu'au bout, sur les pas de son guide, Saint Ignace, l'imitation de Jésus-Christ. Ces paroles du père Ambroise-Marie Carré-Dominicain, prononcées à la séance publique tenue à l'Académie française, le 26 février 1976, quand il a pris la place du cardinal Danielou, il a été élu à l'Académie française, sont absolument admirables. Je vous rappelle donc que le cardinal Jean Danielou, né en 1904 et mort en 1974, est l'un des plus célèbres théologiens de notre époque. C'était un spécialiste de l'histoire des origines chrétiennes. Il était l'un des artisans du renouveau biblique et patristique, les pères de l'Église, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il était doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Paris, c'est-à-dire l'Institut catholique de Paris. Il est expert au Concile de Vatican II sur la demande du pape Jean XXIII. Il a été créé cardinal en 1969, près de 5 ans avant sa mort. Et son apostolat intellectuel s'est longtemps exercé à l'École normale supérieure de Sèvres. Il y a eu des élèves qui sont infiniment reconnaissants à son égard. Il était le fondateur du fameux cercle Saint-Jean-Baptiste. Fut en relation avec des hommes de toutes les cultures, des chrétiens de toutes les églises, des croyants des grandes religions du monde et des incroyants. Il a écrit des ouvrages extrêmement intéressants, comme « Les anges et leur mission » qui a été réédité chez Desclés. Il a publié « Essai sur le mystère de l'histoire » aux éditions du Seuil, un ouvrage très important. Dans son avant-propos, il dit « Les périodes de crise, comme celles que traverse aujourd'hui le monde, amènent les hommes à s'interroger sur la signification de leur destin. » On s'explique ainsi que le problème du sens de l'histoire soit au centre des préoccupations de la pensée contemporaine. Mais certes, il ne date pas d'aujourd'hui. Mais il est sûr que ce problème a pris une place plus importante dans la pensée de notre temps. Ceci est vrai aussi de la pensée chrétienne. Dans son livre « Dieu et nous », que j'ai aussi, c'est tout des livres de ma bibliothèque, c'est comme ça que je peux vous en parler, il veut aider dans ce livre ceux qui cherchent Dieu à tâtons, en leur montrant les voies par lesquelles il se fait connaître. Ce livre voudrait guider ceux qui connaissent Dieu en leur expliquant comment il se révèle de bien des manières, mais comment sa révélation en Jésus-Christ est imminente et définitive. Il voudrait aider les chrétiens à situer dans leur connaissance de Dieu les diverses voies qui leur sont proposées et à aimer la Bible, sans déprécier la théologie et à faire de la théologie, mais sans négliger la mystique. Il voudrait surtout, ajoute Jean Danielou, dans un monde où Dieu paraît si absent, restituer les étapes progressives par lesquelles il s'est manifesté, ce Dieu, et par lesquelles il peut être retrouvé. Ça, c'est Dieu et nous, dans la collection Livres de vie aux éditions du Seuil. Il a aussi publié aux éditions du Seuil des origines à la fin du IIIe siècle, c'est l'Église des premiers temps, montrait clairement comment les premières communautés chrétiennes s'enracinent dans le cadre de la pensée juive. Puis peu à peu, là, l'influence grecque, ça aboutit au IIIe siècle à l'épanouissement d'un premier humanisme chrétien, particulièrement chez Clément d'Alexandrie. Puis l'Évangile et le monde moderne, c'est un petit traité de morale à l'usage des laïcs. Hein. Il dit... Un des aspects les plus importants de la crise contemporaine est celui de la morale. Alors c'est une réponse à cette très grave question que ce livre propose, dit-il. Il a aussi publié « L'oraison, problème politique ». C'est un drôle de titre, ça m'a toujours un peu effarouché jusqu'à temps que je le prenne. Ce livre veut poser une question, comment un grand peuple chrétien est-il possible dans la civilisation de demain? Le problème religieux n'est pas le problème d'une élite, il est au contraire le problème des masses. Mais au niveau des masses, religion et civilisation sont étroitement dépendantes l'une de l'autre. Et il ajoute, il n'y a pas de vraie civilisation qui ne soit religieuse. Inversement, une religion de masse n'est possible que soutenue par la civilisation. Il a publié aussi « La Trinité, le mystère de l'existence ». C'est un très beau livre sur ce dogme. Puis il y a « Test », et nouveau « Test », T-E-S-T, le T-Test, c'est des propos dans le contexte du désarroi actuel des chrétiens. Puis la crise actuelle de l'intelligence est un petit bouquin magnifique. Je ne saurais trop vous conseiller, si vous avez la chance de mettre la main sur un ouvrage du cardinal Danielou, eh bien de le parcourir, de le lire. et de le savourer. J'aimerais terminer avec Transcendance de Dieu. Je ne peux pas tout vous lire ce texte, mais je vous en lis une petite partie. Il y a idolâtrie, écrit le cardinal Danielou, partout où l'homme attend le salut d'ailleurs que de la puissance créatrice de Dieu seul. Je le répète. Il y a idolâtrie partout où l'homme attend le salut d'ailleurs que de la puissance créatrice de Dieu seul. Ce n'est pas les billets de loto qui nous apportent le salut. Non. Idolâtres, dit-il, sont les philosophes, héritiers de la religion grecque de la raison, pour qui le péché n'est qu'une ignorance, et pour qui par suite le savoir est salut. C'est pas le fait de connaître qui nous sauve. Il dit aussi, c'est la religion de l'homme qui est la grande idolâtrie de notre temps. On a fait de l'homme le centre de notre religion. Or, cette religion, dit-il, est partout, elle est chez les athées, mais elle est aussi chez les chrétiens. Pensons à Jean-Paul Lefebvre. Elle est chez les chrétiens qui voient dans le christianisme l'épanouissement d'un humanisme supérieur et se révoltent avec Berdiaev contre lui. Quand les vues de Dieu contredisent les leurs, elle est chez les chrétiens qui veulent bien reconnaître à l'Église la juridiction sur le spirituel, mais refusent d'accepter dans l'ordre politique d'autres lois que le mouvement de l'histoire ou l'intérêt de la classe montante. Elle est chez les chrétiens aussi qui cherchent dans la méditation non la présence du Dieu vivant, mais l'entrée en possession de leur plénitude intérieure, bien oui. Elle est chez les chrétiens qui voient dans le progrès scientifique un moyen de salut plus efficace que la pénitence et la prière. Et c'est bien là qu'est le centre du drame. Si les idoles sont montées à ce point à l'horizon de l'existence humaine, c'est parce que notre temps a perdu le sens de Dieu et de sa transcendance. Les œuvres de l'orgueil humain aboutissent à se détruire. Rappelez que Dieu seul est Dieu, et que tout ce qui est construit en dehors de Dieu est voué à la destruction. Oui, tout ce qui est construit en dehors de Dieu est voué à la destruction. Ces belles paroles du père Danielou m'amènent à vous lire, en ce mois de mai, une prière qu'il a écrite à Marie. « Ô Marie, recueillez toutes les puissances de mon âme. Rassemblez-moi au centre de mon âme dans le silence de tous les désirs, dans la nuit de toutes les images. Faites que mon âme s'écoule en elle-même, jusqu'à ce centre mystérieux où va naître le Verbe. Faites que mon âme s'écoule tout entière dans le Verbe. Rentre dans l'unité de la vie trinitaire. Qu'elle se perde entièrement, qu'elle se laisse entièrement faire. Qu'elle se transforme en vous, ô Verbe de Dieu. Ô mystère du Verbe présent dès l'origine, par qui tout a été fait, et qui vient aujourd'hui une fois de plus dans mon cœur, me donnant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, me communiquant sa filiation. Attirez-moi en ce centre de mon âme, rendez-moi présent à cette naissance. Le ciel est là, tout entier rassemblé comme à Bethléem. Marie inclinée avec les anges, Joseph, tous les saints, tous adorent celui qui descend pour nous, en nous, parmi nous. Quelle foi immense! Quel homme merveilleux, Jean Danielou, décédé le 20 mai 1974, parmi les plus pauvres.